nous voilà de retour donc sur le sanctuaire de la basilique de Sainte-Anne-d'Auray au pied du mémorial. Début de cette table ronde animée pour nous par le père Frédéric Fagot sur le thème
«
Porter la joie du Christ au monde ».
Au sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray, devant le mémorial, à l'occasion de ce lundi de la Pentecôte, à l'occasion de cette fête jubilaire diocésaine, merci à toutes les personnes présentes sur site. Et je salue bien évidemment tous les auditeurs d'RCF. Porter la joie du Christ au monde, tout un programme. Nous allons donc pendant une heure échanger, débattre autour de cette question avec trois intervenants. Sœur Jeanne-Aimée, bonjour ma sœur. Vous êtes religieuse hospitalière chez les Augustines de Malétroit. Accompagnatrice du parcours Amor Dei, bien connu dans notre Bretagne, parcours de discernement vocationnel pour les jeunes filles à partir de 18 ans. Vous êtes infirmière hospitalière dans le service plaies et cicatrisation à la clinique de Malétroit. William Gallet,
bonjour.
Vous êtes responsable développement des parcours Alpha en France. Relations aux églises, responsable réseau des délégués sur le territoire. Vous avez 5 enfants. Vous avez commencé votre carrière dans la haute couture. Vous n'avez pas prévu de faire les chasubles pour le sanctuaire, pourquoi pas. Et votre dernier poste, c'est le poste de directeur qui vous a permis d'être au plus près des femmes, des familles en difficulté. Vous êtes engagé dans votre paroisse, dans l'église de votre diocèse, et donc vous avez rejoint les parcours famille chez Alpha avant de vous consacrer aujourd'hui au développement des parcours Alpha France. Merci d'être présent parmi nous. Et Florian Laguins.
Bonjour.
Vous êtes docteur et maître de conférences en philosophie. Vous enseignez à l'IPC à Paris, au Collège des Bernardins. Depuis 2013, vous enseignez à des publics variés et au Collège des Bernardins depuis 2019. Vous êtes diplômé de l'université, vous avez un diplôme universitaire de périnatalité, vous avez travaillé sur le psychisme face à la naissance, vous êtes docteur en philosophie, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et vos thèmes de recherche, histoire et philosophie de la physique, histoire de la relativité générale, histoire de la philosophie moderne. Vous êtes notamment spécialiste de Descartes et vous travaillez aussi sur l'éthique biomédicale, la procréation médicalement assistée, la PMA, le diagnostic prénatal, l'accouchement et la naissance. Porter la joie du Christ au monde. Chers amis, l'Évangile nous dit que Jésus a été envoyé par le Père pour annoncer aux hommes l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est une bonne nouvelle que le Père voulait faire connaître aux hommes, son amour, sa miséricorde. Il faut avoir, je crois, le courage personnel et paroissial de revenir à Jésus-Christ, à ses actions et à ses paroles. Vous et moi, chacun dans sa mission, nous sommes appelés à être des porteurs de la joie de l'évangile, de la miséricorde de Dieu, à sortir vers les périphéries, ce terme cher au défunt pape François, aller vers ceux qui sont en marge, en ces lieux où les gens en ont le plus besoin, que ce soit très loin, de l'autre côté du monde, et que ce soit tout proche, peut-être dans la rue, de l'autre côté de notre maison, dans certains endroits en banlieue, et ici nos banlieues, eh bien ce sont les villes et les campagnes. À toutes les époques, des hommes, des femmes, évangélisateurs ont fait comme ils pouvaient, avec les moyens du bord, pour annoncer l'évangile. Et ça ne date pas d'hier. Et en 2025, nous sommes appelés à être des missionnaires. Et je dirais des missionnaires de la dignité humaine, à maintenir vivante l'espérance. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'être missionnaire ? Missionnaire de la joie, missionnaire de l'espérance. Ma sœur ?
Pour moi, je dirais que être missionnaire, c'est déjà de savoir de qui on parle. Donc, de revenir d'abord à la source, de prendre la source de la mission dans le Christ, et puis de regarder un petit peu dans l'Évangile ce que Jésus demande à ses apôtres. Il leur demande d'abord d'être avec lui avant de partir en mission. Et voilà, pour nous, en tant que religieuses hospitalières, eh bien, notre mission, elle commence d'abord dans la prière, avant de partir en mission dans nos périphéries, qui sont la clinique, qui sont les groupes de jeunes qu'on accueille. Voilà, toute personne qu'on rencontre dans nos hôtelleries. Voilà, la mission, elle prend avant tout sa source dans le Christ.
Florian Lagasse.
Vous avez dit ma sœur dans le Christ, et ce qui me venait en vous écoutant, c'est que notre mission, elle commence peut-être d'abord par nous laisser convertir nous-mêmes, c'est-à-dire accepter que le Christ que l'on rencontre vienne nous bousculer quelque peu dans nos habitudes, dans nos certitudes, dans tout ce qui nous installe dans une forme de confort, et que nous sommes invités par lui à nous mettre en mouvement intérieurement d'abord, à nous convertir, je le disais, pour ensuite que cette conversion intérieure, ensuite et peut-être aussi en même temps d'ailleurs, elle puisse rayonner autour de nous. Mais je pense que notre premier impératif, si je puis dire, c'est d'oser nous mettre en mouvement nous-mêmes vers lui, plutôt que de spontanément essayer de faire la leçon ou que sais-je aux autres. Mais entendre que moi, j'ai besoin de me convertir et j'ai besoin de t'appeler Seigneur. Viens, Seigneur Jésus.
William.
Oui, merci, merci Florian là, de cette invitation à une conversion pour commencer. Alors c'est vrai que moi, je suis un ancien artisan, je travaillais dans la haute couture. Je pense qu'être missionnaire, c'est être artisan. C'est faire de l'artisanat. On ne peut pas faire du prêt-à-porter quand on est missionnaire. Il y a une manière, finalement, d'envisager la mission qui est très personnelle. Pour reprendre ce que tu disais, Florian, oui, il faut passer par une conversion personnelle. Pour autant, moi, je faisais des chaussures. Les cordonniers ne sont pas toujours les mieux chaussés. Hein, c'est ce qu'on dit, en tout cas. Donc oui, il faut, en effet, avoir une démarche de conversion personnelle, mais il ne faut pas attendre. Parce que si on attend d'être converti, je pense qu'on aura passé notre vie et qu'on n'aura jamais été missionnaire vis-à-vis des autres. Donc, voilà, cette question de l'artisanat, vous savez, du cousu main, du travail à façon, de finalement écouter finalement l'autre et de se dire mais de quelle manière je vais pouvoir le rejoindre de manière singulière, particulière, parce que la mission, elle n'est pas, vous voyez, c'est pas du tout fait. C'est forcément très très singulier la mission. Quelle que soit la personne que l'on rencontre, on va la rencontrer singulièrement.
Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, être missionnaire, certes, mais la mission n'est pas une chasse gardée, réservée à des spécialistes, à des professionnels de la foi. La mission, c'est l'affaire de chacun. Alors comment mettons-nous en œuvre concrètement cet appel du Christ ?
Moi, je merci, parce que c'est vrai que c'est concret. Hein. La mission, c'est pas... enfin, il y a une partie intellectuelle, et je pense qu'on va la débattre, mais il y a quelque chose de l'ordre de se mettre en mouvement. On le disait dès le départ, il y a quelque chose de l'ordre du faire. Donc moi, j'insiste beaucoup sur la question de on n'y va pas tout seul, on n'est pas chrétien tout seul, et un chrétien tout seul, c'est un chrétien en danger, parfois dangereux. Donc on se prévient de cela en essayant toujours de trouver un frère ou une sœur, on en trouvera toujours un ou une, pour nous accompagner dans la mission. C'est tellement évident que parfois on l'oublie, et parfois on y va un petit peu tout seul, et quand on y va tout seul, on se met en danger. Donc une des premières invitations que moi, nos maîtres finalement, parce que là nous on est sur le podium, on parle à RCF, mais c'est vrai que ce que l'on vous dit, on l'a reçu d'autres. On a été enseigné par d'autres. Et moi, le premier enseignement, c'était bien, n'y va pas tout seul, vas-y avec d'autres. Je suppose que, ma sœur, c'est un peu la même chose aussi, vous n'êtes jamais seule.
Oui, je vous rejoins vraiment dans ce que vous dites. Vous voyez, aujourd'hui, c'est moi qui parle, mais mon nom, vous pouvez l'oublier. J'ai toute la communauté qui est derrière. Et voilà, on est missionnaire en communauté. Quand on travaille à la clinique, c'est pas une sœur qui y va, c'est la communauté qui est auprès du malade. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qui fait la différence aussi entre une infirmière chrétienne et une infirmière religieuse. Mais voilà, c'est qu'il y a toute cette dimension d'église qui est là. Et puis, on n'est qu'une toute petite goutte dans cette église. Enfin, chacun a sa place, les laïcs ont leur place. Enfin, moi, je suis ravie d'être là avec d'autres missionnaires. Je trouve ça très enthousiasmant de voir la place de chacun dans l'église et dans le monde.
Don Chautard, moine cistercien, est l'auteur d'un ouvrage de référence que je vous conseille, « L'âme de tout apostolat ». Et il disait ceci, « Ceux qui prient font plus pour le monde que ceux qui combattent. Et si le monde va de mal en pis, c'est qu'il y a plus de batailles que de prières. » Dans cet ouvrage, Don Chautard y rappelle que la mission du chrétien n'a de sens qu'enracinée dans une rencontre personnelle avec le Christ. Il encourage donc une évangélisation authentique, pardon, qui se garde de tout activisme. Et donc, selon lui, l'apostolat authentique n'est qu'un déploiement de la vie intérieure. Alors, comment éviter l'activisme? Quand on parle de porter la joie au monde d'évangélisation, j'ai un livre de recettes, je vais monter des projets, ça va marcher. Mais il faut que ça repose sur quelque chose. Il faut que ça repose surtout sur une personne, sur le roc. Comment faire pour éviter l'activisme?
Merci hein, de cette invitation à tout de suite poser les fondamentaux de la mission et comment être missionnaire. On a déjà entendu un certain nombre de choses. La question de la prière, en effet, qui nous permet de nous poser, de nous reposer sur notre Seigneur. Alpha, on est très sensible hein, à cette question de la prière. Pour ceux qui connaissent les parcours Alpha, qui sont des parcours d'évangélisation, c'est vrai que on dit aux bénévoles, aux personnes qui s'engagent dans la mission avec Alpha, que avant tout, il faut s'arrêter, avant tout, il faut se poser et se tourner vers le Père. Et quand on est bien tourné vers le Père, eh ben on continue encore un petit peu, et ensuite on continue encore un petit peu. Et ensuite, on se tourne vers nos frères et sœurs pour leur parler de Jésus, parce que nous avons une expérience intime. Comment finalement enseigner Jésus? Comment le témoigner, Jésus, si nous-mêmes, nous ne le connaissons pas? C'est pas possible. C'est ce que les gens aiment. Et vous avez tous une expérience ici, là, devant ce podium ou sur RCF. Vous avez une expérience que vous avez essayé de parler de Jésus à aux membres de votre famille, à des gens de votre travail, à votre caissière de supermarché. Enfin, vous avez peut-être essayé des choses comme ça. C'est pas facile. C'est difficile, parfois. Ça sera facile si vous parlez de quelqu'un que vous connaissez et pas d'une idée. Jésus n'est pas une idée, c'est une personne. Et cette personne, on la rencontre dans la prière de manière très forte. Je le disais ce matin dans mon intervention, on le rencontre dans les périphéries, évidemment, mais dans la prière, évidemment.
Et peut-être le mot qui pourrait compléter et qui va tout à fait, je dirais, en consonance avec ce que vous-même avez exposé ce matin, c'est le mot de l'écoute. Parce qu'effectivement, on a besoin de se mettre à l'écoute du Seigneur, d'une part, effectivement, dans la prière, dans la fréquentation des sacrements, dans la lecture de la parole de Dieu. Et on a besoin aussi, dans la mission, de se mettre à l'écoute de ceux que l'on rencontre. Et c'est ce sur quoi vous insistiez, parmi d'autres choses, ce matin. Et cette écoute, elle mérite d'être soulignée comme peut-être, à mon sens, le premier geste de la rencontre. Parce que pour annoncer notre... ce qui nous est le plus cher, c'est-à-dire le Christ, on a besoin, premièrement, de prendre le temps de cette rencontre personnelle avec l'autre qui passe par une écoute attentive, active, sincère, profonde. Et à mon sens, c'est une difficulté que nous avons dans notre société de manière générale, et donc aussi a fortiori lorsqu'on parle de mission, c'est de prendre le temps de nous écouter.
L'écoute, qui est un verbe qui est vraiment au cœur de votre mission au quotidien, ma sœur.
Oui, alors dans les deux dimensions, je pense aux jeunes qu'on accompagne, dans le cadre d'Amor Dei, donc ce parcours vocationnel, eh bien, déjà rien que le fait d'être un peu à l'écart auprès d'une communauté religieuse et de lâcher un peu les activités quotidiennes, ça, ça touche les jeunes et l'activisme est quand même un, j'ai envie de dire, un vrai fléau. Voilà, on ne peut pas discerner simplement, comprendre qui on est aussi, si on ne prend pas le temps à la fois d'écouter le Seigneur et d'écouter ses propres désirs, sa propre intériorité. Donc ça, voilà, de prendre du temps, de décrocher un peu des réseaux, d'être en silence, ça aide à combattre contre cet activisme. Et puis, pour revenir aussi sur notre activité hospitalière, donc, c'est vrai que certaines personnes nous disent, ben, vous au moins, les sœurs, vous servez à quelque chose parce que vous êtes hospitalières, ce n'est pas comme les sœurs contemplatives, voilà, qui, sous-entendu, ne font rien. Bon, ben ça, c'est, concrètement, c'est la partie émergée de l'iceberg que les gens voient de notre clinique, mais toute la partie intérieure qui construit la communauté, qui fait qu'on est à l'écoute du Seigneur, justement, voilà, et que c'est là que prend source notre mission par la prière ou par la mission qui nous est confiée de soins des malades. Ce socle-là, il est fondamental.
Donc à vous entendre, ma sœur, vous êtes une professionnelle du biathlon.
Ah, du biathlon, voilà, c'est ça.
Contemplation, puis action.
Donc il y en a qui font du triathlon ici, je laisserai la parole. Voilà, c'est notre charisme, ce biathlon. Donc je l'apprends aussi aux sœurs parce que je pense qu'elles ne connaissaient pas ce mot-là. Donc on est chanoinesse avec cette partie contemplative et cette partie apostolique. Et puis notre troisième pilier, c'est la vie fraternelle. Donc on a peut-être une petite part de triathlon quand même. Hein. Voilà, mais voilà, les deux, ce sont nos deux poumons qui vraiment le commandement d'aimer nos frères et d'aimer le Seigneur. Voilà, les deux sont inséparables. Ou comme une pièce de monnaie où il y a le côté pile et le côté face, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. C'est les deux qui composent cette pièce. Ben, c'est les deux qui composent notre vie.
L'écoute, c'est écoute, mon fils tend l'oreille. C'est vrai que nous sommes en ce moment ultra connectés et pourtant parfois le téléphone sonne réellement, mais nous ne l'entendons pas. Nous ne répondons pas à l'appel, nous ne l'entendons pas, nous ne pouvons pas répondre à l'appel et nous ne répondons pas aux appels. Alors, on parlait de biathlon, vous êtes plutôt spécialiste du triathlon.
Mais à table,
dans la mission.
Dans la mission, oui. Pas que. Non, mais c'est parce qu'on a mangé ensemble et donc on a partagé de choses et d'autres. Et,
voilà,
et
j'ai posé la. Voilà, j'ai évoqué le fait que. Voilà, je parlais de mon cas personnel, mais quand on a plusieurs missions, quand on est sur plusieurs fronts à la fois, il faut pouvoir voilà, voir où sont les priorités, organiser son agenda, organiser sa vie. Et vous m'avez répondu, voilà, moi qui pratique le triathlon, je mets en place certaines choses pour justement pouvoir affronter les trois sports que je dois pratiquer, comme on a trois, quatre, cinq missions là où l'on est.
Oui, c'est ça, c'est parce que dans l'Église, on passe d'une mission à une autre. On passe d'un, mais comme dans nos vies, hein. Et en triathlon, vous savez, on commence par la natation, puis ensuite on va faire du vélo, puis on finit par la course à pied. Et c'est vrai que la vertu du triathlète, c'est qu'il considère ces trois sports en un seul sport. Tout est lié. Et c'est fondamental de bien lier les choses. Et il travaille en particulier, le triathlète de Dieu, il doit travailler particulièrement sur la transition. Ce qui est important dans nos vies, c'est la transition. Et pour être un bon missionnaire et un beau missionnaire, mais nous sommes merveilleux, hein, dit le psaume, pour être un beau et un bon missionnaire, il faut travailler sur nos transitions pour aller rencontrer les gens dans les périphéries ou pas dans les périphéries. Il faut être très soucieux de bien prendre le temps entre chaque temps que nous vivons dans nos vies. Sinon, on est décalé. Sinon, on va se noyer. Sinon, on va tomber en vélo. Sinon, on va faire une chute à pied, en course à pied. L'idée de cette image du triathlon, c'est une invitation à, dans nos vies, être au clair sur le chemin que nous avons à parcourir. La mission, c'est long. La mission, c'est notre vie. Nous sommes tous appelés à être missionnaires, chacun d'entre nous, chacun à notre manière. Nous sommes appelés à être missionnaires et nous devons nous y préparer. Le triathlète, il prépare sa course. Se préparer par la prière, en effet, se préparer en pensant aux pauses avant qu'elles ne s'imposent, c'est entre autres ça, être triathlète de Dieu.
Être triathlète de Dieu, c'est aussi, dans le cadre de la mission, se déplacer, se désinstaller pour peut-être renaître. Et je reprendrai une image que le pape François avait utilisée lors d'une rencontre de catéchistes il y a quelques années, où il disait, attention, quand on est missionnaire, qu'on a la mission dans les tripes, attention de ne pas tout de suite aller avec les deux pieds dans la zone à risque. Il dit, il y a beaucoup de personnes qui voudraient être missionnaires, mais de manière active, voire même vers de l'activisme, mais qui ont une peur et donc restent dans leur zone de confort. Et d'autres, voilà, il faut aller évangéliser, ça y est, je ne réfléchis pas, j'y vais tout de suite. Il dit, attention, pour évangéliser, pour porter la joie du Christ au monde, il faut garder un pied dans la zone de confort et un pied dans la zone à risque. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça m'inspire une place à donner au silence, dans la mesure où, pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir être à l'écoute du Christ, être à l'écoute de l'autre, on a besoin d'un espace de silence, qui soit un espace d'un silence habité. Enfin, on parlait de l'activisme il y a un instant. À mon avis, se ménager des espaces de silence dans sa journée, ça peut être, enfin, ça me semble tout à fait indispensable. Et inversement, si on n'arrive pas à prendre ces espaces, ou si le moindre moment un peu silencieux, on s'efforce de le remplir immédiatement par allumer l'ordinateur, allumer la radio, etc. Je pense que là, il y a un signe de quelque chose qui est un petit peu déréglé. Mais je crois que c'est comme dans la liturgie. On a besoin d'un fond de silence pour que la parole émerge. Le brouhaha permanent, ça fait rien émerger du tout. Ça construit rien du tout. Mais on a besoin de... Et ce silence, il va de pair avec une certaine paix. Et me semble-t-il, c'est un mot auquel on ne s'habitue plus vraiment, ou on n'habitue plus vraiment nos jeunes ou nos enfants. Ce thème du silence, qui peut être synonyme d'une forme d'ennui, c'est l'impression qu'on pourrait en avoir. Et je pense que cultiver cette paix du silence, qui est la rencontre aussi avec soi-même, du reste, je crois que c'est un point qui me semble intéressant de souligner en plus de tout ce qui vient d'être dit.
Moi, je pensais plus à la notion de conversion dont vous avez parlé tout à l'heure. Eh bien, dans nos vies, on est toujours appelé à être dans cet entre-deux, entre ce qui est du passé, enfin, qui est appelé à évoluer, et puis ce qui est nouveau, mais qu'on ne connaît pas encore et qui peut faire peur. Et voilà, on est toujours dans cet entre-deux à trouver. Et finalement, si on veut donner plus de vie dans nos vies, eh bien, on a cette part de mort à laisser de côté, quelque chose qu'on connaissait, mais qui doit évoluer. Voilà, on sera témoin si on va de l'avant. Et en même temps, cette mise en avant, eh bien, elle s'appuie sur quelque chose qu'on connaît déjà, qui a été expérimenté. Voilà, ça, c'est la part de rock dont on vient de parler, ou de prendre appui sur quelque chose de solide pour aller de l'avant.
Voilà. Oui, on insiste, vous voyez, qu'un missionnaire, hein, ça doit être quelqu'un qui a de la solidité, quoi, qui a de la fermeté. Quelqu'un sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Et les nouveaux chrétiens, les bébés croyants que nous voyons dans nos églises arriver, ils ont besoin de solidité. Ils cherchent des lieux où ils vont pouvoir s'appuyer. C'est un défi de l'Église. C'est un défi de l'Église, non seulement dans sa capacité d'accueil, mais dans sa capacité à être accueillant sur la durée. Parce qu'on voit bon nombre, finalement, hein, de personnes qui tapent à la porte des églises aujourd'hui, et on ne sait pas trop d'où ils arrivent. On s'interroge. On se dit, mais qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent là, quoi, hein. Ils arrivent là pour plein de raisons, évidemment par l'Esprit-Saint, sans doute, parce que on ne peut pas expliquer trop les choses autrement. On a mis en place dans l'Église plein de techniques, plein de manières, mais finalement, ils arrivent par d'autres manières. Ils viennent chercher du solide. Dans la société liquide dans laquelle nous sommes, dans cette société où tout est mou, les hommes et les femmes de notre temps attendent de l'Église de la solidité. Moi, je le perçois à longueur d'année dans ma mission Alpha. Les gens qui tapent à la porte de l'Église, les gens qui viennent dans un parcours, ils veulent du solide. Et on le disait à table tout à l'heure, à la fin d'un parcours, ils posent des questions de fond très, très solides. Ils veulent creuser nos affaires. Donc c'est vrai que être missionnaire, c'est être solide personnellement et c'est mettre en place des postures qui vont permettre aux hommes et aux femmes de notre temps, pour qui tout est mou, vous voyez, l'adolescence, hein, nous dit, les adolescents souvent c'est un peu mou, vous voyez, c'est un peu ça, ben, on est dans une société un peu adolescente où tout est mou, rien n'est sûr. L'Église doit pouvoir, c'est fondamental pour la durée, hein, parce que les amis, hein, on voit beaucoup de gens arriver dans les églises et faire tout un chemin, mais ne pas y rester. Ne pas y rester. Et l'ésotérisme et le recours aux voyants est en train de remonter en puissance dans notre cité, dans nos villes. Donc il y a vraiment un sujet autour de la solidité, je pense, qui est vraiment important.
Ça rejoint un petit peu ce que disait le cardinal Bustillo d'Ajaccio, oui, voilà, qui parle d'avoir du sel dans nos vies et non pas du sucre. Enfin, je pense à ça dans nos communautés religieuses, voilà, quand des jeunes viennent nous voir, se posent des questions sur le sens de leur vie, sur peut-être le don de leur vie au Seigneur, ben, elles cherchent quelque chose qui a de la saveur, de la consistance, voilà, qui soit solide, qui soit éprouvé par le feu aussi. Voilà, et pas simplement sur des rites extérieurs, voilà, sur du faire, mais sur vraiment du contenu. Et ça, c'est important. C'est à nous d'être témoins, de savoir comment on met du sel dans nos vies.
Et c'est peut-être aussi dans cette perspective-là que l'on peut souligner l'importance d'une formation chrétienne, qui soit celle des nouveaux baptisés, des néophytes, mais de tout chrétien de manière générale. Parce que pour donner de l'assise, on pourrait dire, pour rendre raison de l'espérance qui habite en nous, comme dit l'Écriture, pour être efficace dans l'échange, dans un contexte de mission, ben, y a besoin d'être soi-même assez affermi, être capable d'expliquer ce en quoi on croit, être capable de mettre des mots sur ce qui nous habite, sur la liturgie, sur les paroles de l'Écriture, enfin sur des choses relativement fondamentales, mais qui appellent une certaine formation, un certain accompagnement, y compris dans une dimension intellectuelle que peut-être à une époque l'Église a eu du mal à assumer, cette nécessité d'une formation intellectuelle solide. Et il y a de plus en plus d'initiatives qui se proposent, qui se montent pour aider les chrétiens, quelle que soit, j'allais dire, l'étape de leur itinéraire personnel, mais aider les chrétiens à s'affermir, parce qu'on se rend bien compte que la formation intellectuelle n'est pas opposable à une action missionnaire, à un engagement concret dans le monde, mais que les deux vont de pair et se nourrissent mutuellement.
C'est vrai, hein, William, les jeunes qui frappent aux portes des presbytères posent beaucoup de questions, veulent du fond, veulent se former. Et dans le diocèse, vous parlez de nombreuses initiatives, dans le diocèse de Vannes, il y a depuis 2019 un institut de formation qui s'appelle Athénée. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner au stand de l'institut diocésain de formation. Et en préparant cet entretien, je suis tombé sur une citation de Charles de Foucault. On lui demandait qu'est-ce qui est essentiel dans avant d'évangéliser, pour aller sur le terrain. Et il dit, lire la Bible, se former, c'est ça qui permet l'évangélisation. Lire et relire sans cesse le Saint-Évangile pour avoir pour toujours devant l'esprit les actes, les paroles, les pensées de Jésus, afin de penser, parler, agir comme Jésus et non les exemples et les manières de faire du monde auxquels nous retombons si vite dès que nous détachons nos yeux du divin modèle.
Oui, merci. C'est On peut applaudir Charles de Foucault, hein. Franchement extraordinaire. Mais c'est...
Ouais. Et ce n'est pas l'intelligence artificielle qui a donné cette citation.
Ah ben ça, c'est un vrai sujet pour les missionnaires, l'intelligence artificielle.
Bon, on le voit depuis quelques jours, notamment sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux, mais on voit de plus en plus fleurir de fausses citations du pape Léon XIV, notamment en lien avec l'urgence missionnaire.
Ah oui, non, mais c'est un sujet. Et Florian, merci d'avoir insisté sur la question de la formation. C'est un vrai défi parce que, alors Charles de Foucault, il dit voilà, il faut pas prendre les manières de faire du monde. Hein, il faut vraiment s'appuyer sur l'Évangile. Ça va être un gros sujet pour l'Église, je pense, dans les années qui viennent, de pas être dans la séduction. Voyez, on a des techniques modernes pour attirer le chaland. Hein. Il y a des manières d'être et de faire qui permettent de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et il faut vraiment que l'Église là-dessus soit hyper vigilante. Ce qui va nous y aider, je pense, Florian, c'est la question de la formation, c'est-à-dire du niveau d'exigence, finalement, que l'on a. Pour ceux qui étaient à Open hier soir, là, au concert, c'était vraiment très intéressant. Voilà un modèle d'évangélisation, moi, qui m'intéresse bien, se dire, c'est sympa, c'est dynamique, c'est jeune, mais il y a un moment où on se pose, parce que notre Seigneur, dans son Saint-Sacrement, arrive, et là... Ce niveau d'exigence, ce niveau de gloire de notre Seigneur s'impose à tous. Il y a un moment, on revient à l'essentiel, et l'essentiel, c'est Jésus présent, vrai homme, vrai Dieu.
Vous parlez d'exigence à juste raison, mais c'est vrai que l'écueil inverse, ce serait de faire, qu'on pourrait dire... de la formation chrétienne, une sorte de préambule nécessaire pour l'entrée dans l'Église, voyez, comme s'il fallait avoir atteint un certain niveau pour se permettre de accéder au baptême, d'être investi de telle ou telle mission d'Église. Et c'est là où l'équilibre est toujours nécessaire à conserver, parce qu'à la fois, on a tous besoin de progresser dans notre formation personnelle. Et en même temps, le Seigneur nous prend et fait avec nous tel que nous sommes. Et c'est là où on a besoin de cet équilibre, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas non plus de se reposer sur nos lauriers. Bon, ben, le Seigneur se débrouillera bien avec ce qu'on peut donner. Il y a besoin de faire de notre mieux pour chacun, à notre mesure, progresser dans notre chemin spirituel. Ça peut être la recherche d'un accompagnateur spirituel. Ça peut être la recherche de lieux de formation. Donc moi, j'ai besoin de progresser. Et en même temps, je sais très bien que je reste dans une certaine pauvreté. Et que le Seigneur, il travaille cette patte humaine avec toutes ses pauvretés. Mais chacun a besoin de faire sa part.
Avec un souci de cohérence. Être cohérent, être crédible, peut-être retrouver le sens aussi. C'est bien d'avoir de belles méthodes, de beaux outils de communication pour aider l'autre à frapper à nos portes. Mais est-ce que finalement, annoncer la joie, annoncer l'espérance au monde, c'est pas tout simplement, et même ce simplement est peut-être compliqué, faire aimer ce que l'Église demande.
Oui, puis je pense que on est tous missionnaires et vous l'êtes aussi. Et nous, c'est pas parce qu'on est ici là à la table ronde qu'on est des super missionnaires. Enfin, vraiment loin de là. Et mais le principal, voilà, c'est d'être là où le Seigneur nous appelle, à notre place. Enfin, on a tous une place dans l'Église et dans le monde. Et ça, c'est important à chacun de se poser la question, à quoi je suis appelée. Je reviens encore à l'Évangile, mais vous voyez bien, le Christ, il n'a pas appelé le super missionnaire qui était Saint-Pierre, qui l'a renié trois fois. Enfin, le Christ fait aussi avec nos faiblesses, avec ce qu'on est. Mais je crois qu'il ne nous demande qu'une chose pour être missionnaire, c'est de répondre à la question « Est-ce que tu m'aimes, Pierre ? Est-ce que tu m'aimes ? Sœur Jeanne-Aimée, est-ce que tu m'aimes ?» Voilà. Et après, c'est dans cet amour qu'on a pour le Christ et l'amour dont on se sait aimé par lui qui fait que voilà qu'on a envie de porter cette joie aux autres avec nos fragilités, avec nos pauvretés, avec nos défauts de caractère. Mais voilà, c'est comme ça qu'on rejoint simplement les autres. Et en les rejoignant, eh ben, ça nous donne encore plus envie de connaître celui qu'on annonce. Et voilà, et c'est dans ce désir de le connaître que s'approfondira aussi la réflexion, les enseignements, les besoins de se former.
C'est être pleinement ce que l'on est, ça va être un bon défi aussi. Je vois un autre défi se dessiner. Le Seigneur nous a plantés à un endroit. Et en effet, on est tous missionnaires. Et je crois beaucoup à la providence des choses et le fait que vous soyez dans tel ou tel village, dans telle ou telle ville, dans telle ou telle rue de votre ville est une invitation à être missionnaire à cet endroit-là. Petite blague. On peut faire une petite blague. Vous savez, à Alpha, on aime bien commencer par des histoires drôles et des blagues.
Et celui qui trouve la solution, il gagne un prix.
C'est une blague.
Ils appelleront le standard de RCF.
D'accord. En tout cas, aujourd'hui, on regroupe beaucoup les choses. Hein, on regroupe nos paroisses. On se regroupe par faute de moyens, souvent. Hein. Alors, c'est l'histoire d'un... Il y a des curés, peut-être ici. Je vais prendre l'exemple d'un curé. C'est un curé qui meurt, parce que ça arrive que les curés meurent. Et il arrive au paradis. Et ce curé, il a regroupé des paroisses. Il a fusionné des églises. Vraiment, vous voyez, le super curé, quoi. Et il arrive au paradis. Bon, il se dit, ça va être... la fête, quand même. J'ai fusionné des paroisses, j'ai regroupé des églises, je suis vraiment génial. Il arrive, Pierre l'accueille, et il dit, bah voilà, c'est moi. Et Pierre lui dit, c'est par là, c'est la petite porte là-bas. Et alors Pierre y va, il ouvre la porte, puis il se dit, waouh, il fait chaud quand même, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Alors il retourne voir Pierre, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Pierre lui dit, bah vous êtes pas au courant, on a fusionné. On est invité, les amis, à être en proximité. La mission, c'est la proximité. Oui, nous devons regrouper. Oui, nous devons nous rassembler. Bien sûr, bien sûr. Mais le Seigneur, il nous appelle à aller voir surtout la caissière de notre supermarché. Voyez, la mission, elle commence là. Je dis pas que c'est facile. Il est parfois plus facile d'être missionnaire loin que d'être missionnaire avec son voisin. Vous voyez votre voisin, là, avec qui vous pouvez échanger du sel, un œuf, parce que si vous... C'est avec lui que le Seigneur vous invite d'être missionnaire. Bon, vous voyez l'image, là, vous l'avez tous, votre voisin. Il est sympa, votre voisin. Non? Pas trop? Bon, on s'en fiche, de toute façon, le Seigneur vous invite à être missionnaire avec lui. Ce que vraiment je veux souligner à travers ce qu'on est en train de dire, c'est la mission, elle est tout proche de vous. N'allez pas chercher loin. Elle est tout proche de vous, dans votre rue, dans votre village, et particulièrement dans notre province. Nous avons besoin, nous sommes en milieu rural, majoritairement, vous tous ici, nos églises dans les milieux ruraux sont souvent fermées, et nos contemporains, nos voisins, ont besoin de sentir l'église proche de chez eux. Et vous êtes l'église. Nous sommes l'église. Nous avons besoin vraiment de témoigner de cela.
Annoncer Jésus-Christ, annoncer la joie, annoncer l'espérance au monde. Nous voyons avec vos propos depuis le début de cette table ronde, c'est placer l'homme face à Jésus, proclamer l'évangile de Dieu pour permettre la foi. Voilà notre vocation. Être missionnaire, c'est annoncer la joie de la foi. À quelques heures de sa mort, voici ce que disait Pier Giorgio Frassati, qui sera canonisé le 3 août prochain à Rome. Tu me demandes si je suis joyeux. Comment pourrais-je ne pas l'être? Tant que la foi me donnera la force, je serai toujours joyeux. Chaque catholique ne peut pas ne pas être joyeux. Le but pour lequel nous sommes créés nous indique la voie parsemée aussi de multiples épines. Mais non, une voix triste, elle est joie, même à travers la souffrance. Aller vers la caissière de supermarché, aller vers le pompiste, aller vers la personne que l'on croise dans la rue, peut-être pas avec un visage de carême, mais avec un visage de ressuscité. Pour vous, chers amis, c'est quoi la vraie joie?
La vraie joie, ce serait celle qui se propose malgré tout. Parce que dans la fin de la citation que vous avez mentionnée, il est question de joie même à travers la souffrance. Alors force est de constater que nos vies, c'est pas des chemins pavés de roses. Enfin, il y a plein de parfois de petites contrariétés, parfois de grands drames, de blessures, et du côté de nos existences, mais aussi du côté de ceux que nous rencontrons, la vie, ça n'a rien d'un chemin tout tranquille. Et pourtant, il y a plusieurs manières de traverser cette souffrance. Moi, dans mon travail d'enseignant, il m'est arrivé souvent de parler de ce thème à des publics très différents. Et plus j'y réfléchis, plus je me rends compte que ce rapport à la souffrance, il est extrêmement fondamental dans notre société. Je veux dire que notre rapport à la souffrance, il détermine notre rapport à la vie en général, à l'accueil de la vie, à l'accueil de la fin de vie, à tout un tas de problématiques qui sont des problématiques de société, ou bioéthique par exemple, comme on dit. Et donc, qu'est-ce que je fais de ma souffrance ? Vous voyez, aujourd'hui, on promeut beaucoup l'hygiène du corps. À Paris, il n'y a pas longtemps, je suis passé à côté d'un lieu pour faire du sport, une sorte de salle de fitness. C'était marqué en énorme, ouvert 24 heures sur 24. Ça suggère qu'entre 2h et 5h du matin, il doit bien y avoir des gens qui viennent faire du rameur ou courir sur un tapis. Ça m'a un petit peu surpris, mais enfin, ils ne sont pas absurdes. Hein. S'ils ouvrent, c'est qu'il y a des gens qui viennent. Bon. Mais en tout cas, c'est une manière de promouvoir le soin du corps. Et on est beaucoup dans cette idée, vous voyez, c'est mangerbouger.fr, enfin, vous voyez, c'est ce genre de thématique, ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré. Enfin, notre monde, il regorge d'injonctions autour de la santé physique. Mais qu'est-ce qu'il en est de notre santé intérieure, notre santé psychologique et spirituelle ? Ce sont deux niveaux différents, mais qui ne sont pas tout à fait indépendants quand même. Qu'est-ce qu'il en est de cela ? Dans quelle mesure est-ce qu'on prend soin de notre âme ? Il n'y a pas de lieu comme ça, à la limite, ce qui ressemblerait le plus à une salle de fitness, ce serait un confessionnal, vous voyez, parce que c'est le lieu du combat en vue du soin intérieur, vous voyez, c'est ce que je verrais de plus approchant. Donc mais ce n'est pas 24-24, quoi.
Voilà, vous ne demandez pas d'ouvrir les confessionnaux 24 heures sur 24, si ?
Non, bien sûr que non. Mais en tout cas, que chacun ait ce souci pour lui-même. Comment est-ce que je prends soin de ma vie intérieure ? Moi, j'aime beaucoup un penseur, un philosophe du XXe siècle qui s'appelle Gustave Thibon, qui vivait en Ardèche, qui cultivait la vigne. Et Thibon a une phrase très belle sur la souffrance. Il dit, vis-à-vis de la souffrance, nous n'avons pas le choix de la fuir. Nous avons seulement le choix entre la souffrance fermée de l'enfer et la souffrance ouverte de la croix. Souffrance fermée, souffrance ouverte. Je crois que cette alternative, elle est très inspirante. Il n'est pas question de supprimer en tant que telle la souffrance. Le chrétien a bien raison d'être révolté contre elle, mais force est de constater qu'elle subsiste toujours quelque part. Mais nous avons notre part à jouer sur la manière de la traverser. Et je reviens pour conclure à votre question initiale. Vous savez, c'est un peu comme quand on fait de l'alpinisme. On trime pour arriver jusqu'au sommet, mais en haut, on profite de la vue. Et voilà la joie, je crois. Celle que l'on reçoit au terme d'un effort accompli. Celle que l'on reçoit parce que l'on a surmonté quelque chose. Une joie qui se donne gratuitement à nous comme la récompense du combat que l'on a gagné. Voilà une première réponse.
Ma sœur ?
Je pense qu'il y a aussi beaucoup de souffrance chez les personnes qui, parce que la société, l'encourage dans ce devoir de faire, d'agir, d'être toujours plus performant, et ça renvoie, je pense, à beaucoup de souffrance chez les personnes qui particulièrement sont isolées, qui sont diminuées dans leur santé physique, psychique. Voilà, je pense que c'est aussi un vrai lieu de mission pour chacun de nous de les rejoindre aussi. Ça peut être une grande souffrance de sentir qu'on est inutile à la société, à notre prochain, que parce que on n'a plus telle ou telle capacité, on vaut plus rien. Et ça, c'est valable pour tout type de personnes. Hein. Enfin. Je le vois dans les patients, bien sûr, qu'on rencontre, mais faut pas croire. Enfin, même au sein d'une communauté religieuse, ça peut être aussi très exigeant de voir des sœurs hospitalières actives et des sœurs aînées qui peut-être sont plus diminuées dans leur santé. Mais voilà, notre lieu de mission, il commence aussi entre nous, dans la communauté. Et la vraie joie, c'est de sentir qu'on est aimé et qu'on aime le prochain pour, simplement pour ce qu'il est, comme une merveille de Dieu. Enfin, je pense que ça, c'est la vraie joie profonde qui rejoint l'être tout entier. Et puis, c'est ce que vous disiez, de prendre soin de soi, de son âme, de notre intériorité. Et c'est celle-là qui rayonne.
Prends soin de toi, prends soin des autres et prends soin du monde.
Oui, cette question de la joie, elle m'a pas mal mis en difficulté, en vérité. Parce que quand on croit à un truc comme notre foi, là, c'est quelque chose d'incroyable. C'est fou. Notre foi, elle dépasse nos mesures. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt un naturel joyeux. Et quand en tant que chrétien, j'étais en difficulté avec la joie dans le sens que j'écrasais un petit peu. Vous voyez ? Quand on est tellement convaincu qu'on est dans la joie parce que le Seigneur est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, ça y est, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus le problème, il l'a résolu. Et moi, ça me mettait finalement dans une joie tellement forte que j'écrasais les autres sous le poids de cette vérité, vous voyez, tellement c'était évident. Ça m'a invité vraiment à retravailler ma posture, même si je parle peut-être trop fort et que des fois je suis trop enthousiaste, mais je me soigne, parce que je sais que cette joie, elle est douce, elle est tempérée, elle est une invitation avant tout à l'écoute, à la tendresse vis-à-vis de nos frères et sœurs, et qu'elle ne doit pas être écrasante, parce que sinon elle l'inquiète. Finalement, c'est des fous furieux, ces chrétiens-là. Donc je suis aujourd'hui un peu plus tempéré, mon épouse pourrait peut-être le confirmer ou l'infirmer, que notre foi et notre joie, alors, doit être toute tournée vers celui qu'on écoute, et elle doit être avant tout tendresse.
Et ouverture. Je crois que la vraie joie, elle est ouverture. Vous savez, en français, le mot dilatation, il a la même racine que le mot latin laetitia, qui veut dire la joie. Parce que, y a un collègue philosophe qui a écrit il y a quelques années un livre au titre assez farfelu en même temps qu'étonnant, ça s'appelle « La joie spacieuse ». Le philosophe a toujours l'art du titre un peu alambiqué, bon, faut concéder. Mais n'empêche que je crois que ça dit quelque chose de très profond. La joie profonde, elle naît d'une dilatation du cœur. Vous voyez, et ton cœur se dilatera, ça fait partie des invitations de l'écriture d'ailleurs. Le cœur qui se dilate, le cœur qui s'ouvre, bien sûr, c'est le cœur ouvert du Christ sur la croix. Moi, venant de Paray-le-Monial, je peux être que sensible à cette question du cœur ouvert. Mais pour nous, c'est une prophétie de la joie qui nous attend. Et on a parfois des occasions de faire l'expérience dans notre vie quotidienne de ces moments d'ouverture à l'autre, d'ouverture au Seigneur aussi, qui sont des expériences d'une joie incroyable. Moi, je me permets de prendre un seul exemple. Il y a quelques années, donc aujourd'hui nous avons 4 enfants, à l'époque nous en avions 2, et on nous a proposé avec mon épouse d'accueillir chez nous pendant une année scolaire complète 2 adolescents qui poursuivaient leurs études à proximité, donc 2 lycéens, un frère et une sœur. On nous a dit, est-ce que vous voulez bien qu'ils viennent habiter chez vous pour toute l'année? Alors nous, on habitait dans un appartement assez petit, on avait 2 petits-enfants, on a pris 15 jours pour réfléchir, je vous passe les détails, finalement on a dit oui. Alors pour dire oui, on leur a laissé notre chambre, on a dormi sur le canapé pendant 1 an. Et c'était extraordinaire. Si c'était à refaire, je le ferais, c'était prodigieux. Je ne m'y attendais pas moi-même, parce qu'accueillir des gens chez soi, c'est déjà quand on connaît les gens, ce n'est pas toujours facile, mais quand on ne les connaît pas, pour moi c'est difficile. Mais j'ai senti un appel à dire oui à cette proposition tout à fait providentielle. Puis ces 2 jeunes, ils sont tout à fait extraordinaires, humainement parlant. C'était une expérience d'une ouverture au sens concret, ici, une ouverture de notre foyer. Je prends un deuxième exemple, la dilatation. C'est très concret, c'est aussi le préalable de la naissance. Vous avez dit, c'est un thème sur lequel je travaille et qui m'est cher. La dilatation, ça prend du temps, c'est douloureux, mais c'est le préalable de la naissance. Tout ça pour dire que toute vie passe par une ouverture qui peut être un effort, mais une ouverture à laquelle nous sommes invités à consentir, parce que ce qui naît, c'est quelque chose qui va changer le monde. En l'occurrence, c'est un enfant, parfois c'est une idée, parfois c'est une nouvelle relation, parfois c'est une vocation, enfin, il y a 1000 ouvertures à vivre. Mais l'ouverture est toujours un risque à prendre ou une chance à courir.
Porter la joie du Christ au monde, porter l'espérance du Christ au monde, on a envie de le faire, parfois on ne sait pas comment le faire. Notre vocation à tous, c'est la sainteté. Saint Jean-Paul II disait « N'ayez pas peur d'être les saints du troisième millénaire. » Et pourtant, nous avons parfois peur. Mais peur de quoi ?
Oui, mais c'est sans doute que les images de saints que nous avons, elles sont tellement hautes qu'elles nous inquiètent. Voilà.
Vous avez la barre est trop élevée ?
Oui, je pense. Enfin, Charles de Foucault, waouh, quoi. On se dit, c'est fort, quoi. Il y a sans doute cette peur là. Et puis, je pense qu'on n'est pas bête. On voit bien que ça va nous obliger à de l'inconfort, que ça va nous obliger à
aller dans la zone à risque.
Voilà. Enfin, il y a avant la naissance, quoi. C'est pas facile, quand même. Il y a des moments difficiles. Donc, je pense qu'il y a aussi cette peur là. Elle est assez humaine, finalement. Donc elle est raisonnable, je pense.
Donc n'hésitons pas à plonger dans l'océan de tendresse du Seigneur. N'hésitons pas à oser. C'est ça ce que vous nous incitez à faire.
Oui. Il y a une prise de. On parle beaucoup de prise de risque. On va dire que c'est une prise de chance. Après ce qu'on vient de dire pendant une heure, c'est plutôt une prise de chance que nous allons faire. Mais c'est vrai qu'elle est à considérer. On l'a dit pendant cette table ronde, dans la prière, en lien avec d'autres, dans une proximité, enfin, etc. Tout ce que l'on a dit.
Moi, je pense qu'on quitte bien notre zone de confort en étant ici, là, sur cette estrade. Hein. Je le dis très, très sincèrement. Mais en même temps, voilà, cette peur, elle se dépasse parce que je pense qu'on est aussi très heureux de rendre compte de la chance qu'on a de connaître le Seigneur, de savoir qu'il est là dans nos vies, qu'il est là dans vos vies, qu'il nous appelle à porter du fruit là où on est. Voilà, ça va au-delà de cet inconfort, de peut-être cet orgueil à rabaisser un peu, de cette vanité à raboter.
Tout à l'heure, juste avant de monter sur scène, on s'est proposé de prier. Merci, mon père, parce que votre réflexe, et c'est pas une évidence pour moi, ça a été de vous tourner vers la Vierge Marie et voilà, de prier notre maman. Et je pense que c'est... Elle nous dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Être missionnaire, c'est faire tout ce qu'il nous dira à chacun d'entre nous et prendre ce temps de se tourner vers Marie en tant que missionnaire et en tant que catholique. Et je vous disais, moi, je travaille avec d'autres églises chrétienne. Là encore, c'est un cadeau immense que nous avons dans notre Église de pouvoir être soutenu par la prière de la maman de Jésus.
Dans son livre « Les déshérités », François-Xavier Bellamy insiste sur le fait que le désir de transmettre a disparu. Nous sommes à Sainte-Anne-d'Auray, sanctuaire de la transmission. Sainte-Anne est représentée avec un livre, tenant en sa main un livre, elle transmet quelque chose à sa fille, à Marie. Mais fort heureusement, je crois que la soif de recevoir reste intacte. On parle d'une crise de la transmission dans notre société, certes, mais notre devoir est de partager, je ne sais pas ce que vous en pensez, avec joie et gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement du Seigneur. Alors quels sont, selon vous, dans un sanctuaire de la transmission aujourd'hui, mais là où nous sommes aussi, les priorités dans l'annonce de la joie de l'Évangile et dans l'annonce de l'espérance de la foi? Vous avez une heure.
Bon, d'abord, si vous permettez, je partage pas vraiment le constat de François-Xavier Bellamy sur cette difficulté de la transmission. Je pense que pour la plupart, la difficulté n'est pas de savoir s'il faut transmettre. On a tous conscience qu'il faut transmettre. La question de fond, c'est comment on fait pour transmettre. Et comment transmettre-t-on efficacement dans un monde qui évolue à une vitesse très importante, avec des moyens qui sont toujours nouveaux, avec des canaux de transmission qui sont toujours différents. Donc la question, à mon sens, c'est plutôt celle des moyens. Et on sait bien qu'un certain nombre de chrétiens s'investissent aussi sur... les questions digitales, sur l'évangélisation aussi dans ce domaine-là, etc., qui est, à mon sens, quelque chose de complémentaire de tout un tas d'autres approches. Mais vous avez aussi parlé de cette soif et de comment on transmet, par quoi on commence. Je me permets de vous faire une proposition. Pour moi aussi, qui ai des enfants en bas âge, où on est dans ce moment de la première transmission de la foi, il me semble qu'il faut mettre l'accent, mais terriblement, sur la personne de Jésus. C'est extrêmement simple, mais c'est aussi facile de se détourner, par exemple, avec un vocabulaire des valeurs. Ça, c'est très à la mode. On va vous parler de valeurs ceci, des valeurs cela. Mais moi, je ne crois personnellement pas d'abord en des valeurs. Je crois en une personne qui va de pair. Et cette personne, qui est le Christ, elle va évidemment nous inviter à un certain nombre de comportements. Mais le vocabulaire des valeurs, c'est un vocabulaire abstrait. Ou c'est un vocabulaire, en fait, chrétien sécularisé. On va ratatiner les ambitions chrétiennes pour en faire des sortes de valeurs, bon, dont on ne sait plus bien pourquoi il faudrait les transmettre, parce qu'après tout, pourquoi celle-ci plutôt que telle autre, bon. Nous, ce que nous avons à communiquer, c'est un message relativement simple. C'est Dieu qui s'incarne pour nous offrir le salut. Et il s'incarne dans la personne de Jésus. Dans cette personne qui a vécu à un moment donné sur la terre et qui vit aujourd'hui encore, mais au ciel, se résume ce trait d'union extraordinaire entre le ciel et la terre que nous sommes invités à emprunter. On connaît bien cette fresque au Vatican où on voit Dieu qui s'apprête à toucher comme ça le doigt d'Adam. Mais je pense aussi à une formule qu'on entend très rarement, c'est dans une prière eucharistique pour la réconciliation. Au milieu de la prière eucharistique, le prêtre dit « Mais avant que ses bras étendus ne dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton amour, il voulut prendre le pain, etc. » Avant que ses bras étendus ne dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton amour, la croix, c'est ce que nous avons de plus précieux. Et c'est ce par quoi, à mon sens, nous devons commencer avec nos enfants, par exemple, avec ceux qui nous entourent, avec ceux qui se posent des questions sur la foi. Il n'y a rien de plus essentiel que Dieu qui s'incarne et qui, par amour, choisit de mourir pour nous sauver définitivement. C'est une sacrément bonne nouvelle.
Pour la question de la transmission, elle se pose aussi dans la vie religieuse. On entend beaucoup, il y a moins de jeunes maintenant qui rentrent dans les monastères, il faut nous faire connaître. Et c'est vrai, ça rejoint ce que vous disiez là sur la question des moyens. Oui, c'est sûr que on sent bien que si on s'ouvre pas à la demande des jeunes, c'est pas forcément les jeunes qui viendront sonner à la porte de nos monastères. Et que voilà, on a à se faire connaître. Donc ça, c'est tout la façon dont on communique, dont on se fait connaître. Mais je pense que la vraie transmission, elle est aussi à l'intérieur de quoi on vit, quel est notre charisme profond, qu'est-ce qui rejaillit de l'intérieur de notre communauté, comment on vit la charité entre nous, comment on vit le partage, comment on vit le pardon, comment on vit l'obéissance. Enfin voilà, chacun de nos vœux. Et je pense que cette transmission, finalement, elle est assez simple, mais elle rayonne encore une fois de l'intérieur. Elle ne va pas chercher des choses très compliquées, mais on est appelé à vivre, à bien le vivre. C'est pareil dans une famille. Ben voilà, la transmission, elle se fera par les beaux exemples qui se passeront entre les parents et les enfants. Voilà, ça rejaillit.
Les podcasts qui marchent le mieux en France et même en Europe sont des podcasts, quelles que soient les applications, qui sont des podcasts de témoignages, de récits, des gens qui racontent leur vie. C'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Et en complément, en effet, de la transmission, la question du témoignage est fondamentale. Pour être missionnaire, je pense qu'il faut pouvoir être en capacité de témoigner, à sa manière, de sa relation à Jésus. Témoigner chacun personnellement de votre relation à Jésus va sans doute nourrir la réflexion de l'autre. Vous savez, hein, plus je me raconte, plus je deviens ce que je suis. Plus j'écoute l'autre, plus il m'aide à me poser, à mieux identifier ma place. Il y a une invitation pour les chrétiens à témoigner de sa relation avec Jésus. Car elle est pas intellectuelle, cette relation avec Jésus, comme on le disait très justement. Elle est du cœur, elle est du corps, elle est concrète. Et aujourd'hui, on a besoin d'entendre des témoignages. On a mangé avec Open, là, avec le groupe. Ce matin, ils ont témoigné auprès des jeunes de leur vie, de leur expérience. Et il y a eu, nous disait Open, il y a eu plein de questions qui ont été posées par les jeunes. Les gens attendent de comprendre, mais c'est quoi être chrétien ? C'est quoi être chrétien concrètement ? Ça veut dire quoi dans ta vie ? Dans ta vie, pas de manière intellectuelle. Témoignons de notre relation avec Jésus, alors nous pourrons témoigner de la joie qui est la nôtre, parce que sinon, elle est abstraite.
Léon XIV, dans son message à la conférence des évêques de France, donc mettait en exergue trois saints, Saint Jean Eudes, Saint Jean-Marie Vianney, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il disait qu'il était essentiel et important de célébrer le centenaire de la canonisation de ces trois saints. Mais il forme le vœu que ces célébrations ne se contentent pas d'évoquer avec nostalgie un passé qui pourrait sembler révolu, mais de réveiller l'espérance et de susciter un nouvel élan missionnaire. Alors, comment réveiller l'espérance et comment susciter cet élan missionnaire ? C'est la dernière question que je vous pose cet après-midi.
Mais elle couve. Dans le monde, il y a une attente incroyable. Incroyable ! Le monde est impatient d'entendre la parole. Le monde est impatient. Bien sûr qu'il y a des frontières, il y a des choses qui nous bloquent. Mais le monde et les hommes et les femmes de notre temps attendent d'entendre la révélation chrétienne. Ils attendent cela. Parfois, nous sommes timorés. Parfois, nous n'osons pas y aller. Et il faut y aller, on l'a dit, de différentes manières. On n'y va pas comme ça, à fond, en écrasant les gens, bien sûr. Mais la révélation chrétienne est la plus belle des réponses que nous pouvons donner au monde aujourd'hui. Elle est attendue, les amis. Mais vous le savez, vous êtes là. Elle est attendue.
Ma sœur.
Alors, je ne suis pas très inspirée, là, mais j'aurais envie de dire que parfois, on attend d'avoir un grand nombre, un grand groupe, un grand rassemblement pour qu'on ait l'impression que ça y est, il y a la flamme missionnaire qui agit. Alors que c'est dans la rencontre de chacun à chacun. Enfin, voilà, concrètement, quand je suis au pied du lit d'un malade, ben, l'espérance missionnaire, elle est là. Et dans cette réciprocité entre ce que je donne et ce que je reçois, enfin, toujours dans cette relation. Voilà. Et dès qu'il y a relation entre deux personnes, eh ben, il y a cette mission, quoi. Enfin, c'est tout simple, hein.
Ben, moi, je me permets peut-être une proposition. Parce qu'on va avoir un petit temps là juste après la table ronde avant la messe. Alors peut-être vous vous étiez demandé qu'est-ce que vous alliez bien pouvoir faire avant que la messe commence. Mais remarquez, ici on est rassemblés parce que on est attaché à la figure de Sainte Anne, parce qu'on aime le Christ, parce qu'on veut le suivre. Mais même dans ces circonstances-là, c'est pas facile de se tourner vers la personne qui est à une chaise de soi ou au rang derrière soi pour partager sur ce que l'on vit. Mais peut-être ça peut être, c'est une simple proposition, hein, chacun en fera bien ce qu'il veut, mais peut-être ça c'est un moyen d'ouvrir justement son cœur et son horizon, de se tourner vers la personne qui est proche de soi et qu'on connaît pas justement, pour échanger son prénom, pour dire d'où on vient, pour partager comment est-ce que j'ai rencontré Jésus. Ça peut être aussi l'occasion, voyez, ce genre de moment comme on vit aujourd'hui, de créer davantage de liens pour en venir non pas à une sorte de collectif, comme je disais ce matin dans la conférence, qui est plutôt l'apanage des équipes de foot ou de rugby, mais à une sorte de communauté, qui est ce à quoi nous aspirons, ouais, la communion. Mais il n'y a pas de communion si on reste isolé. Et nous sommes tous affrontés à une forme de timidité qui fait que ça nous est pas très facile de nous retourner vers la personne qui est à côté de nous, ne serait-ce que pour dire son prénom, dire d'où on vient. Mais je pense que profiter aussi des occasions que l'on a ici pour rencontrer d'autres, tenter le pari de serrer la main à la personne que l'on va croiser tout à l'heure en disant juste bonjour, peut-être ça changera quelque chose et on repartira avec plus d'élan, plus d'enthousiasme, enfin en tout cas une expérience de l'ouverture du cœur.
Avec une sollicitude qu'il qualifie de maternelle, pardon, pour toutes les familles chrétiennes du monde entier, le pape Léon XIV, la semaine dernière, à l'occasion du jubilé des familles, a déclaré qu'il est de la responsabilité de l'Église d'aller vers les familles qui sont souvent les plus éloignées de nous et de devenir des pêcheurs de famille. Être pêcheur d'hommes, pour que les générations à venir le connaissent, c'est la devise de notre évêque, Monseigneur Santaine. Donc être pêcheur d'hommes, être pêcheur de couples, de jeunes, d'enfants, d'hommes et de femmes de tous âges, de toutes conditions, afin que tous puissent rencontrer le seul Sauveur. Chers amis, notre monde, nous l'avons vu, enfin, nous le savons un peu, mais avec vos trois interventions, vos trois témoignages, notre monde a besoin d'une parole exigeante, d'une parole forte, d'une parole cohérente, d'une parole vraie, une parole qui aime. Jésus lui-même, pendu au gibet de la croix, une parole vivante, Jésus ressuscité, une parole qui élève, qui vous prend là où vous êtes et qui vous rend votre dignité. Chez Saint Jean, chapitre 8, versets 10 à 11, nous lisons ceci. « Personne ne t'a condamné ? Personne, Seigneur. Moi non plus. Je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. » Voilà ce dont nous avons besoin, de cette parole d'amour. Alors Jésus fixa son regard sur lui et l'aima. Marc 10, 21. Puissions-nous, chers amis, poser dès ce jour un regard d'amour sur toutes les personnes que nous croisons, à l'exemple du Christ, et poursuivre la proposition que vous venez de faire. Eh bien, quand nous pouvons agir, agissons, ne restons pas à regarder le ciel et les nuages, agissons, osons avec amour, avec fermeté, avec miséricorde, par amour et dans l'amour. Duc in altum, ole cœur. Merci à vous trois et bon après-midi.
Voilà, ainsi se termine cette table ronde animée par le père Frédéric Fagot qui signe à l'instant la conclusion de ce temps d'échange. Je vous rappelle avec autour de la table William Gallet du Parcours Alpha, Florian Laguins qui est philosophe et puis sœur Jeanne-Aimée, vous l'avez entendu, Augustine hospitalière de la Miséricorde de Jésus à Mal-Étroit. Un magnifique témoignage. Je vous souhaite à nouveau un excellent après-midi. Je vous rappelle, nous sommes ici sur le sanctuaire de la basilique de Sainte-Anne-d'Auray en direct en ce lundi de la Pentecôte à l'occasion de la grande fête jubilaire diocésaine sur ce thème, porter la joie du Christ au monde. Dans quelques instants, restez avec nous, on va écouter un petit peu de musique et juste après, à partir de 14h45, on se retrouve pour écouter un magazine spécial signé pour nous par Claire Leparc, qui est venue en amont de cette fête flânée ici à Sainte-Anne-d'Auray. Elle nous proposera un magazine sur ce thème d'évangéliser par le beau et le partage. À tout de suite.